C'est l'heure d'attaquer à l'abordage du psaume 22. Alors, je vous ai préparé une feuille. Et comme c'est un psaume qui est un peu sensible, je vous ai mis plusieurs traductions de façon à ce qu'on puisse... apprécier un petit peu les variations et les difficultés que ça soulève. Donc, vous avez sur la gauche la version hébraïque, qui nous sera utile pour deux aspects. Vous avez sur la deuxième colonne la traduction œcuménique de la Bible. Vous avez sur la troisième la Bible de Jérusalem. Et sur la dernière, une Darby qui est à peu près l'équivalent d'une Louis II. C'est une traduction protestante. Darby, Jean-Noël ou Jacques-Noël, Darby. Darby était un protestant qui a fondé notamment le darbisme dans la Drôme, l'Ardèche. Une communauté de protestantisme un peu rigoureux. Et la traduction est vraiment intéressante, elle est proche du texte. Bon, comme James Woody est français, oui. Bon. Alors, première chose que vous pouvez constater, c'est qu'il y a un décalage dans la numérotation selon les traductions. C'est pas spécifique à la France. On a ça aussi aux États-Unis. En fait, vous voyez, l'entête pose problème. Enfin, pose problème, c'est pas vraiment un grand problème. Chez Darby, il manque carrément le début de l'entête. Dans les Louis II, en général, les versets 1 et 2 sont agglomérés. Si vous avez une Bible sur vous, vous verrez que 1 et 2 sont ensemble. Du coup, si vous cherchez le fameux « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», vous le trouvez dans le verset 1 des traductions protestantes, alors qu'il est dans le verset 2 du texte massorétique, donc le texte original, et puis des traductions catholiques ou œcuméniques. Bon, ça, c'est un petit point de détail. Je vous propose que nous commencions par le lire intégralement, comme ça on va avoir la tonalité en tête et puis l'atmosphère générale. Vous le lisez dans la traduction que vous voulez. Pardon ?
Quand même sur la Bible, on l'a dit, ça va être lu à haute voix.
Oui.
Mais si on le fait à plusieurs, ça va être dans la traduction quand même.
Il n'y a pas d'obligation. De toute façon, après, on reprendra le texte. Vous voulez commencer ?
Oui, je peux.
Oui.
J'avais une question à poser.
Oui.
Je veux savoir pourquoi ils n'ont pas simplifié tout ça, ces numérotations.
Alors, les numérotations sont simples. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont cohérentes au sein de chaque traduction. C'est quand on les met côte à côte que les choses commencent à se complexifier. On avait vu à la première séance qu'il y a par exemple un psaume qui est dédoublé ou deux psaumes qui sont rassemblés, ce qui fait qu'il y a une différence de numérotation entre les traductions protestantes et les traductions catholiques, parce que la traduction catholique suit la traduction de la Vulgate, qui est une traduction latine, qui suit la traduction grecque des Septante, alors que les protestants se sont reportés directement au texte massorétique, le texte hébreu. Quoique là, vous voyez, il y a quand même du décalage. Bon. Vous vouliez prendre la lecture, Nicole ?
Oui, je veux.
Ouais.
Je
ne sais pas, moi, de vous dire le mieux. Mais peut-être prendre l'une des deux premières pour avoir l'en-tête.
D'accord. Du maître de chant sur la biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, voile de silence pour moi. Et toi, le Saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance, et tu les délivrais. Vers toi ils criaient, et ils échappaient. En toi leur confiance, ils n'avaient pas envie. Et moi, ver et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me volent, me voient. Leur bouche ricane, ils hochent la tête. Il s'est remis à Yahvé, qui le délivre, qui le libère, puisqu'il est son ami.
Oui, si quelqu'un veut prendre la suite, on est au verset 10.
C'est toi
qui m'a...
Allez-y.
C'est toi qui m'a tiré du ventre ma confiance près des mamelles de ma mère. Sur toi, je fus jetée au sortir des entrailles. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bachan m'encerclent. Contre moi baillent leur gueule, lions lacérants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule et tous mes os se disent. Mon cœur est pareil à la cire, un fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me servent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien, mon ennemi. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, toute la race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il est véritable. De toi vient ma louange dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui me craignent. Les pauvres, un jour, ils seront assassinés. Ils loueront Yahvé, ceux qui le cherchent, que vive votre cœur. Les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers Yahvé. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Yahvé, la royauté, au maître des nations. Oui, devant lui, seuls se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se couvriront tous ceux qui descendent à la poussière et pour celui qui ne vit plus. Sa lignée le servira. Elle annoncera le Seigneur aux âges à venir. Elle racontera au peuple à même sa justice, il l'a fait.
Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans ce texte. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur une autre traduction pendant qu'il y avait la lecture.
Oui,
c'est ça. Il y a quand même des variantes. Donc, ce texte qui a été lu, la traduction de la Bible de Jérusalem, a essayé d'être au plus proche du texte, notamment en omettant délibérément les verbes « être » qui sont sous-entendus en hébreu. Du coup, il y a beaucoup de participes présents. On l'entendait un peu au début. « Et moi », par exemple le verset 7, « Et moi, vers et non pas homme, risé des gens, mépris du peuple ». C'est un peu nominal comme formulation, alors que la traduction de Darby dit « Mais moi, je suis un ver et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple ». Vous voyez, le « je suis » est sous-entendu en hébreu, et il n'est pas restitué dans la Bible de Jérusalem pour être au plus proche de la phraséologie. Donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, il y a déjà des différences. Et puis, il y a une différence qui va être majeure, qu'on va voir dans le cours. Alors, le psaume peut être découpé dans un plan permet de pouvoir repérer à la fois la progression et puis les différentes parties. Donc, il y a un en-tête qui donne un peu l'indication pour le psaume. On va y revenir. Et puis, on voit qu'il y a, disons, deux grandes parties jusqu'au verset 22 et à partir du verset 23, disons. Et, comment dire, le point autour duquel s'organisent ces deux parties de versets. Donc le verset 22b, c'est « Tu m'as répondu ». Pardon ?
Oui, non, mais c'est une méthode de plus dans les différentes traductions.
Ouais. Alors le « Tu m'as répondu », on l'a au verset 22 en hébreu. Et jusqu'à ce « Tu m'as répondu », il y a quelque chose qui est de l'ordre de la plainte, un petit bout de désir qui va s'exprimer au verset 12a, mais essentiellement de la plainte, puis à nouveau le désir, et à partir du verset 22, on va être dans la reconnaissance, l'action de grâce, la bénédiction, la joie. Donc, à la limite, on pourrait dire qu'il y a quasiment deux psaumes en un, mais en fait, c'est un psaume qui nous permet de mettre en scène la traversée de la lamentation. Et La traversée de l'absence de Dieu, ce qu'on pourrait appeler la dérélection. C'est cela que nous allons étudier de près. Bien. Alors, tout d'abord, l'entête du verset 1, du maître de chant ou du chef de chœur, sur la biche de l'aurore, psaume de David. Y a-t-il des choses à dire à ce sujet ? Oui, on parle de la biche de l'aurore. Et qu'est-ce que ça pourrait évoquer, cette biche de l'aurore ?
42,
alors, on parle de la biche dans le psaume 42, mais il ne va pas y avoir assez de contact pour le mettre en rapport avec le psaume 42. Alors, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est quelle est cette mélodie de biche de l'aurore ? C'est vrai que ça pourrait être le psaume 42 comme un cerf altéré Brahme, sauf que là c'est une biche et pas un cerf. Donc on imagine qu'il y a un tube là, qui faisait floresse à l'époque, c'était le debout sainte corde de l'époque. Eh bien, quand on ne sait pas trop, on va voir en général dans les commentaires rabbiniques si on a gardé la trace de la tradition. Et effectivement, dans le Midrash du psaume 22, on trouve une connexion. Une double connexion. La première connexion, c'est avec le livre de Michée, au chapitre 7, le verset 8. Un verset qui dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je tombe, je me relève quand je suis assise dans les ténèbres. L'Éternel est ma lumière. » Biche de l'aurore, ma lumière. Pourquoi ? Parce que il y a la question de la traversée de la nuit. En fait, on pourrait dire que le croyant vit une nuit au sens existentiel du terme. Et ici, dans Michée, il y a l'idée que l'Éternel est la lumière. Et quand l'Éternel donne-t-il la lumière ? Eh bien, en fait, il la donne quand les ténèbres sont les plus profondes. Et dans la tradition rabbinique, quand les ténèbres sont-elles les plus profondes, c'est au moment de l'aurore. C'est juste avant l'aurore. On pourrait dire que c'est juste avant le moment de Pâques. Vous savez que les femmes se rendent au tombeau à l'aube, à l'aurore. C'est-à-dire au moment où la nuit est la plus profonde, mais aussi la plus froide. Vous savez que le moment où il fait le plus froid dans la nuit, c'est à l'aurore, c'est-à-dire juste avant que le soleil commence à inverser la courbe de température. Et les ténèbres, c'est pareil. La tradition rabbinique dit que c'est le moment où la lune, les étoiles, les planètes sont éteintes. C'est une façon de dire que l'Éternel intervient au plus fort du problème, c'est-à-dire une fois qu'on a atteint le paroxysme de la situation. Et si on continue la lecture de Michée 7, la suite est de cette nature-là. « Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des merveilles, les nations regarderont, elles seront couvertes de honte. » Et en fait, ce texte reprend des éléments que l'on a dans le psaume 22. Les nations, la libération hors d'Égypte. C'est une façon de dire que ce psaume 22 est peut-être une mise en musique, une mise en cantique de cette expérience de Michée 7. Dans les deux cas, la violence semble triompher, et puis il y a un coup d'arrêt, en dépit du fait que Dieu semble absent et qu'il est silencieux, le mal pourrait donner l'impression de l'emporter, mais Dieu intervient, alors même que tout semble perdu, et il relève le peuple, et il le fait sortir des ténèbres. Alors, il y a cet aspect Michée, chapitre 7, et puis il y a une autre possibilité qu'évoque le Midrash au sujet de la biche de l'aube, ça serait un rapport avec le cantique des cantiques. Et bien voilà, le chapitre 2, verset 8, c'est lorsque la bien-aimée se met à chantonner « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à gazelle au fan des biches. » Non, c'est pas bizarre. C'est parce qu'il ne faut pas avoir une lecture genrée de ces textes. L'idée, c'est que on voit l'aspect bondissant, en fait. C'est-à-dire ce qui permet de dévaler les sommets. Du coup, vous voyez, c'est comme si on arrivait à passer par-dessus ce qui semble le plus élevé, le plus infranchissable. Et du coup, le premier verset de ce psaume pourrait être une évocation de l'Éternel sous la figure du bien-aimé du cantique qui bondit pour nous apporter la lumière comme l'étoile du matin apporte le jour. Et donc, on aurait un cantique qui célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort. Et comme vous allez vouloir absolument faire un rapprochement entre le psaume 22 et la passion de Jésus, c'est la victoire de l'Éternel sur ces forces de mort qui voudraient en finir avec Jésus de Nazareth. Donc vous voyez, ce tout premier verset donne quand même des indications importantes sur la suite. Bon, maintenant on va attaquer le verset le plus connu au monde peut-être, en tous les cas dans les psaumes. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, je vous le dis dans la version hébraïque. « Eli, Eli, lama, azaftani. » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Eli, Eli, lama, azaftani. » Pas de réaction ? Non, ok, d'accord. Bon, ok, très bien. Bon, bon, d'accord, ok. C'est ce que dit Jésus sur la croix ? Non.
Non, c'est pas ça. Dans Marc, c'est pas ce qu'il dit.
Mais dans Matthieu non plus.
Dans Matthieu non plus, c'est pas ce qu'il dit.
Alors, chez Matthieu, il dit Eli Eli, lama sabachthani. Et chez Marc, c'est Eloi Eloi, lama sabachthani. Et c'est pas le même verbe, en fait. Pardon ? Hélène, je vous ai pas entendu. Eh oui, mais c'est pour ça qu'on y travaille là. Donc, je vous en dis pas plus sur le problème, sur le fait que, enfin, le problème concernant le fait que c'est pas le même verbe. Je vous en parlerai mieux à Vendredi Saint. C'est un petit teasing pour vous faire venir vendredi 19h à l'Oratoire du Louvre. Voilà, il y a quand même une disjonction grave. En revanche, on peut s'interroger sur le redoublement de mon Dieu. Alors, vous pouvez dire, c'est parce qu'il y a une intensification. Je trouve que le Midrash, là aussi, nous offre une interprétation intéressante. C'est qu'en fait, il va temporaliser cette expression. Il va dire, le premier mon Dieu, c'est le premier jour. Le premier jour, mon Dieu. Pas de réponse. Deuxième jour, mon Dieu. Pas de réponse. Et du coup, troisième jour, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous voyez, c'est une façon d'inscrire peut-être la prière du croyant dans la durée. Et alors, je vous fais cette remarque pour qu'on ait bien en tête que les différents récits bibliques, notamment dans les évangiles, ne sont pas à l'échelle du récit. Vous voyez, quand Jésus, par exemple, va prendre soin de quelqu'un et que cette personne va se remettre debout, va pouvoir revivre, etc., ça se passe en une fraction de seconde dans le texte. Dans la vie réelle, il se pourrait que ça se passe en un jour, en une semaine, en un mois, en plusieurs années. Ceci pour dire qu'on voudrait que des miracles aient lieu instantanément au nom de la foi. Eh bien, il faut être vigilant au fait que les textes bibliques raccourcissent le temps de l'action pour l'inscrire dans un récit. Et donc, il ne faut pas craindre que le temps soit plus long, pour autant qu'un temps puisse être long, parce que c'est à cette condition que on pourra effectivement faire coïncider les textes bibliques avec notre réalité. Et là, le Midrash est intéressant parce qu'il offre justement peut-être la bonne échelle de temps. Enfin, il nous rappelle qu'il y a une échelle de temps qui ne correspond pas au temps de la lecture. Alors, l'abandon, c'est quand même un terme fort. On pourrait se demander si ce n'est pas une stratégie de la part du croyant pour influencer Dieu. C'est-à-dire qu'en exagérant la situation, il va du coup provoquer Dieu, il va provoquer une réaction. Vous voyez, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un et que vous n'avez pas de réponse, du coup, vous surenchérissez. Et grosso modo, vous en venez à lui dire « mais en fait, c'est comme si je n'existais pas » ou « je compte plus à tes yeux pour que tu m'ignores comme ça ». Vous voyez, vous dramatisez la situation. Vous êtes dans l'ordre de la tragédie. C'est un chantage affectif, mais on peut espérer que ça fonctionne des fois. Bon. Donc, le Midrash précise. Premier jour, mon Dieu, et il continue en disant « C'est toi qui nous as sauvés de la mer des joncs ». Deuxième jour, mon Dieu, c'est toi qui nous as parlé au Sinaï. Et aujourd'hui, tu ne sauves pas. Aujourd'hui, tu ne parles pas. Ça, c'est une reconstruction du Midrash. C'est le commentaire juif qui essaie de combler les blancs de l'écriture. Quelle est l'argumentation que le psalmiste va mettre en place pour essayer d'obtenir une réponse de Dieu? Et c'est un commentaire du Midrash qui s'appuie sur la suite du récit, puisque la suite du récit va s'appuyer sur l'histoire du peuple hébreu. C'est le verset 5, hein. Nos pères comptaient sur toi, ils comptaient sur toi et tu les libérais. On a souvent ça dans l'Ancien Testament. Moïse, par exemple, lorsqu'il est sur le Sinaï, en train de recevoir les tables de la loi, que le peuple est en bas en train de faire le veau d'or, et que d'un seul coup, Dieu se dit, eh bien, on va les châtier, etc. Eh bien, Moïse invoque l'histoire pour arranger la situation. Moïse dit, mais alors, ça signifierait que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire périr dans le désert, mais que penseraient les autres nations? Oui, encore un peu de chantage affectif. Le croyant est un maître chanteur. Et c'est tout le problème de la prière. C'est que la prière est un procédé pour faire pression sur Dieu, comme tout acte de communication. À partir du moment où on demande quelque chose à quelqu'un, on fait pression. La question est, comment arrivons-nous à demander quelque chose en laissant l'autre libre de sa réponse? Eh bien, ce psaume met en scène la difficulté pour demander, j'allais dire gracieusement, quelque chose. On a toujours en filigrane les intentions, je dirais, un peu stratégiques de l'interlocuteur. Comme si Dieu ne pouvait exaucer qu'à la condition qu'on le convainque qu'il est juste d'agir ainsi. C'est pour ça que la théologie des psaumes n'est pas forcément une bonne théologie sur le plan dogmatique. C'est un bon processus sur le plan existentiel, mais il ne faut pas prendre les psaumes au pied de la lettre. C'est-à-dire que les psaumes ne nous renseignent pas immédiatement sur l'être de Dieu. Donc j'ai beau rugir, mon salut reste loin, ou tu es loin de mon salut, des paroles de mon rugissement. Donc vous voyez, il y a même quelque chose de bestial dans l'attitude du croyant qui se met à rugir, qui se met à vociférer, la rage, quoi, le côté animal qui ressort. C'est-à-dire que si la raison est inopérante, eh bien, il y a une sorte de régression, et finalement, il y a le côté primal qui ressort. Le côté primal qui, on va le voir, est d'autant plus motivé que le croyant est confronté à quelque chose de bestial lui aussi. Et le verset 3 montre la totalité de l'abandon. « Le jour j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu, la nuit et je ne trouve pas le repos. » Vous voyez, par exemple, en termes d'ambiguïté sur les traductions françaises, on a le verset 3 de la Bible de Jérusalem, donc la traduction française du milieu. « La nuit, point de silence pour moi. » Et alors, vous voyez, on est en pleine ambiguïté parce que le psalmiste voudrait une réponse et on dit « il n'y a pas de silence ». S'il n'y a pas de silence, c'est donc qu'il y a du son ou quelque chose. Alors en fait, lui, il fait l'expérience du silence absolu. Et c'est ça qui le terrorise. Donc vous voyez, il y a une ambiguïté dans la traduction de la Bible de Jérusalem, qui par ailleurs est intéressante. Donc c'est plutôt pas de repos. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude maximale. Le croyant est dans l'incapacité de trouver la moindre sérénité. Il est affolé. C'est la personne qui se sent perdue. Et qui du coup va courir dans tous les sens et s'épuiser à ne pas trouver son chemin. Imaginez-vous dans le désert, sans point de repère. Vous allez aller dans un endroit, et puis vous dites « Ah non, je suis peut-être allé trop loin, je m'éloigne peut-être. » Et vous mourrez d'épuisement nerveux et de tout. Oui.
Quelle différence y a-t-il entre Yahvé et Élie ? Et deuxième question, j'avais cru comprendre que dans la Torah, on ne nommait pas Dieu, justement.
Alors, dans la Torah, on nomme Dieu avec le tétragramme, les quatre lettres.
C'est-à-dire Yod, E, Wav, E. Donc, si je mets dans le... Enfin, ça fait comme ça. Donc, la Bible de Jérusalem va vocaliser Yahvé. Yahweh. Et comme ça... C'est la racine aya, le verbe être ou advenir, avec le fameux épisode du buisson ardent, ayez à chair, ayez, donc je suis qui je suis, ou je suis qui je serai, ou je serai qui je suis, enfin bon, je vous l'ai déjà fait. Les traductions style Louis II ou Darby ont donc essayé de rendre ce verbe, et ils ont dit l'éternel, qui prend en charge à la fois le temps et l'infinitude de ce temps-là, hein, l'inaccompli. Et donc Élie, c'est elle, avec ici le possessif, mon, le yod, ça veut dire mon. Donc Dieu, le nom commun, est mon Dieu. Alors qu'ici, c'est le nom propre, en fait. Ouais. Là, vous, par exemple, vous pourriez dire mon pasteur, et là, James. C'est à peu près équivalent. Voilà. Donc il y a la fonction, elle, donc Élie, la fonction possessivée, et puis le nom propre qui est traduit par le Seigneur dans la Tobe. Parce que ça reprend un peu la formule juive contemporaine Adonai. Adonai, ça veut dire mon Adon, donc mon Seigneur.
Et qu'est-ce qu'on entend par Jéhovah ?
Jéhovah, ben, en fait, c'est une autre vocalisation.
C'est la vocalisation Yehovah. C'est à partir de ces quatre lettres-là. Yahvé, Jéhovah, c'est pas très loin. C'est juste ça. Ce qui est intéressant dans l'expression « mon Dieu » plutôt que « éternel », c'est qu'il y a le possessif, et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confession de foi. Parce que
ça traduit bien l'attachement affectif du croyant vers celui qu'il appelle. Et ça, c'est quelque chose que je vous rappelle autant que je peux, c'est que toutes ces prières désespérées, ces prières de lamentation des psaumes, disent en creux une formidable espérance. Parce que si on appelle à Dieu parce que la situation est épouvantable, c'est qu'on a bien l'intuition qu'elle pourrait être tout autrement. Et donc, si on en appelle à Dieu, même du fait qu'il y a un silence épouvantable, c'est donc qu'on a bien l'intuition que Dieu pourrait remplir ce silence de quelque chose de vivant, ou qui rend vivant cela. Et donc, mon Dieu, c'est à la fois la plainte, et c'est en même temps une confession de foi. Hein, quand quelqu'un dit « mon Dieu », il n'est pas complètement perdu, en fait. Même quand quelqu'un s'exprime « oh mon Dieu !» Bon, il n'est pas complètement athée, quoi. Je veux dire par là qu'au moins il se rend bien compte qu'il y a autre chose que lui qui est en jeu, même si ce n'est pas forcément le Dieu de Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Vous savez, c'est une expression qui fait florès de nos jours. Bien. Oui. Donc, à la fois il y a le désespoir et à la fois il y a la proximité maintenue dans cette formule. Donc on pourrait dire la foi est intacte finalement, même si la réalité semble dire le contraire. Ensuite, il y a le lama, le pourquoi, qui pourrait être aussi bien qu'ai-je fait pour mériter cela, ou que s'est-il passé de mal, quel est le problème. Vous voyez, c'est un verbe qui est au passé. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors comme ça, en français, le passé composé n'est pas aussi violent que l'accompli en hébreu. En hébreu, hein, je vous le rappelle, il n'y a que deux temps, il y a l'accompli et l'inaccompli. Donc ce qui est révolu et ce qui ne l'est pas. Donc ça, ce qui n'est pas révolu, ça peut être soit du présent, soit du futur. Donc, on pourrait dire que lorsque le psalmiste dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», il le dit alors qu'il ne l'est plus. Sinon, il dirait « Pourquoi m'abandonnes-tu ?» Si on a cet accompli, c'est qu'il est dans la situation où il a tourné la page. Il est dans un autre chapitre. C'est-à-dire que c'est un texte écrit a posteriori. C'est un texte qui est rédigé alors que l'expérience de tout le psaume 22 est déjà finie.
En français, ce serait mieux « Pourquoi m'avais-tu abandonné ?»
Oui, mais c'est une action finie. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, pour bien montrer que... Oui, bien sûr. Pour bien rendre l'accompli. Oui, oui, tout à fait. On pourrait avoir un passé antérieur ou... Ah oui, tout à fait. Il y aurait moins de confusion. Ça insisterait plus sur le fait que, voilà, on est passé à autre chose. Ouais, c'est très juste, bien sûr. Donc, je vous ai parlé du verset 3. Le verset 4, « Et toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël », ça relève, vous voyez, une fois de plus, de la confession de foi, en fait. La traduction œcuménique ajoute le « pourtant », ce qui est pas mal, parce que ça montre le contraste qu'il y a entre la situation et ce que le croyant en dit. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais dans l'édito de la Feuille Rose, c'est un cependant. Voilà. C'est le cependant de la foi, en fait, qui déjà met le monde dans un autre ordre de marche. Il y a quelque chose de pascal, au sens de la résurrection, dans ce « et pourtant » de la traduction œcuménique. Et en fait, si on regarde l'hébreu, c'est quelque chose qui est tout petit. Hein, parce que c'est la copule « et » en fait.
Vous avez au début du verset ça. Hein, c'est ça. Et toi, sous-entendu, et pourtant toi, cependant toi. Donc là, c'est toi, Théoï. Et là, vous avez un petit mot qui peut justement montrer qu'il y a soit une continuité, soit une opposition. Donc, le verset 5... Pourtant, ah oui, d'accord. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça dit bien la logique interne du croyant et la force de résilience que provoque la foi. Donc, nos pères comptaient sur toi. Ils comptaient sur toi, tu les libérais. Nos pères avaient confiance, tu les délivrais. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés, tu les as délivrés. Donc, on convoque l'histoire ancienne, qui est un capital dans lequel on puise pour, j'allais dire, influer sur le cours des événements. Et dans une certaine mesure, la foi, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la confiance, elle a besoin de se vérifier. Et la confiance, elle se nourrit de l'expérience du passé. Parce que c'est arrivé autrefois, eh bien, ça peut encore arriver aujourd'hui. Souvent, le psalmiste et les personnages bibliques vont utiliser ce ressort-là. Donc, on fait appel aux grandes leçons de l'Alliance. Alors, je vous donne les références si vous voulez aller les voir. Deutéronome, chapitre 26, verset 7. Exode, chapitre 6, verset 5. Ah, donc là, c'est le moment où se met en place le projet de libération. Et puis, vous pouvez aussi voir Josué, chapitre 24, les versets 6 et 7. Voilà. Donc, c'est les grandes leçons de l'Alliance qui retiennent le moment de la prière exaucée. Et c'est une façon de célébrer tous ces moments où Israël a été exaucé. Et donc, évidemment, en s'inscrivant dans cette histoire-là, on donne un petit coup de pouce pour que ça nous arrive également. C'est le principe de l'adoption, en fait. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas issu d'Israël peut se raccrocher à cette histoire-là. C'est notre cas, dans une certaine mesure. Hein. C'est ce que Paul dit. Finalement, il y a une greffe qui prend sur une histoire. Vous voyez, tous les protestants n'ont pas eu des ancêtres rameurs. Pour autant, ils peuvent être au bénéfice de l'histoire des Camisards, de l'histoire de la Réforme, même s'ils sont des nouveaux convertis. Parce que ce qui a été vrai pour les anciens, l'est vrai pour nous, au nom de cette fraternité élargie dont parle la grâce, et notamment la grâce au moment du baptême. Donc, il criait vers toi, il s'était délivré, il comptait sur toi, il n'était pas déçu. Et le verset 7, il y a cette expérience un peu malheureuse. « Moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. » Et là, on commence à voir une nouvelle allusion au récit de la Passion de Jésus, avec le rejet par le peuple. Vous souvenez que Jésus aurait pu être racheté et le peuple préfère Barabbas. « Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent, ils hochent la tête. » Bon, ben ça, c'est ce que Jésus découvre sur la croix. Les moqueries, je vous donne la référence, c'est Matthieu, chapitre 27, les versets 39 et 44, par exemple. Donc, même le cri, d'ailleurs, hein, à un moment donné, il y a le psalmiste qui crie, c'était Matthieu, chapitre 27, verset 50. Donc, on va avoir quand même beaucoup d'allusions entre Jésus sur la croix et puis ce psaume 22.
Dans Job, il y a,
oui.
Les railleries, etc.
Oui.
Et des amis proches.
Oui, bien sûr. Oui, mais pas de moquerie. Alors qu'avec Jésus, il y a des moqueries. Il y aura la fameuse phrase « Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Allez, vas-y, fais le malin. » Bon. Donc,
Le verset 7 est assez tragique parce qu'il y a d'un côté le Dieu saint, celui qui siège sur le trône, venons-nous de voir au verset 4, et celui qui n'est même plus un homme. Et vous voyez, on joue le grand écart. D'un côté, le Dieu qui est loué par les hymnes, et de l'autre, quelqu'un qui est moqué. Et on joue sur ce contraste-là. Et donc, on est du coup dans la véritable anthropologie calvinienne. Et en fait, on prépare l'instant de la grâce. Parce que dans une certaine mesure, l'instant de la grâce a besoin de ce grand écart. C'est-à-dire quand tout va bien, la grâce, elle est inefficace, parce qu'elle n'a pas de place. La grâce, elle ne fonctionne qu'à condition qu'il y ait de la place. Comme le disait Martin Buber, Dieu est là où on le laisse entrer. Et c'est aussi le sens de la kénose de Paul. Il faut bien se vider de soi-même pour faire un peu de place à l'altérité, au divin, etc. Le psalmiste sentira d'autant plus qu'il a sa place parmi le peuple qu'il se sent exclu. C'est l'expérience négative, en quelque sorte. C'est l'expérience rétrospective. On ne mesure vraiment son bonheur qu'une fois que ce bonheur est perdu. C'est l'expérience de Josué 24. On donne la terre promise au peuple, et le peuple dit « le jour où on recevra la terre promise ». Et quand est-ce qu'ils diront « nous avons reçu la terre promise » C'est quand ils seront en exil à Babylone. Voilà. Donc quand il y a l'expérience du creux, de l'absence. Et alors c'est pour cela qu'évidemment, la difficulté, l'adversité, les mauvais moments de la vie sont extrêmement propices à l'attitude religieuse. Parce qu'ils creusent le désir, pour prendre une formule un peu théologique, ou homilétique. Mais c'est surtout que ça rend d'autant plus évident la nécessité de Dieu. Enfin, je ne vous apprends rien, ça va de soi. Faites exploser des bombes à Paris et vous remplissez les temples. Parce que y a un sentiment d'abandon, de panique, de déréliction, de on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va, qu'est-ce qui va arriver. Et du coup, Dieu peut être justement la réponse espérée. Et pas simplement la nature qui a horreur du vide, mais une expérience religieuse au bon sens du terme. Bon, ensuite, le suppliant, là, celui qui fait cette supplique, le croyant, donc, n'est pas du tout dans une optique d'hymne et de louange. Il est tout à l'opposé de cela. Et il est dans une phase régressive, finalement. Et cette phase régressive, elle va s'exprimer avec ces versets 10-11, où on va parler de la mère. Vous savez que quand ça va mal, on appelle sa mère. Même les filles font ça, pas que les garçons. Et de façon générale, quand il y a un vrai moment de mal-être, il y a cette attitude qui consiste à vouloir retrouver le sein maternel pour retrouver la vraie sécurité. C'est-à-dire que c'est une attitude extrêmement positive, quoique régressive. On va retrouver le meilleur moment de sa vie, là où on était le plus tranquille au bon sens du terme. Bon, quand la grossesse s'est bien passée. Hein. Mais bien sûr qu'on a conscience. Le corps garde une mémoire très vive de la gestation. Il y a tellement de choses qui se passent pendant la gestation. Je ne voudrais pas dire que tout se joue dans la gestation, même si certains seraient prêts à le soutenir, je pense, parce qu'il se passe des choses après quand même. Mais c'est quand même déterminant pour la suite. L'accouchement aussi est déterminant pour la suite. Mais après, tout peut changer. Je veux dire, on peut agir sur ces moments-là. Mais c'est les moments les plus forts de l'existence de quelqu'un, en fait. Hein. Et vous pouvez prendre les textes bibliques, beaucoup de textes bibliques, comme des textes de gestation et de naissance. Prenez la sortie d'Égypte, c'est vraiment une expulsion avec les contractions. Prenez les récits de Pâques, j'avais fait une fois Dieu et sage-femme. Et j'avais montré comment on pouvait lire les récits de Pâques comme un récit de naissance au sens gynécologique du terme, hein, quasiment. Donc là, remonter à la naissance, c'est une manière de remonter à un moment de la vie aussi antérieur à toute forme de prière. Mais quand on n'a plus les mots pour le dire, eh ben, on retourne à des moments primitifs, en quelque sorte. Un temps de grâce seul. C'est ça, en fait, l'expérience aussi du nouveau-né. Enfin, le nouveau-né, au sens du moment où il naît, c'est peut-être pas le moment le plus gracieux pour lui. Mais la gestation, c'est le temps de la grâce seule, en fait. Vraiment, hein, au sens technique du terme. Ça l'est déjà moins quand c'est un nourrisson, parce qu'il commence à mettre en place les stratégies pour mener les parents par le bout du nez, tout ça. Enfin bon, ça, je vous raconte pas, parce que ça n'est pas qu'à moi, mais... l'enfant dans l'utérus, c'est la grâce seule. Indépendamment du projet parental, hein, je veux dire. Et c'est un peu l'expérience de Jérémie aussi. Jérémie, qui est vraiment empêtré dans sa mission, va faire ce moment régressif, hein, c'est au chapitre 20. Et puis, il y a quelque chose qui se mêle à cela, c'est le désir, en fait, d'une sorte de suicide. Hein, c'est-à-dire, j'aurais préféré ne pas vivre. J'aurais préféré ne pas venir au monde. Préférer rester dans le sein maternel, quoi. Donc, ce moment-là, c'est un moment paroxystique. On est au plus fort de l'angoisse, on est au plus fort de la dépression. On peut lire ce psaume comme une dépression nerveuse, je vous le montrerai tout à l'heure. Et avec une sortie de la dépression. Et le verset 12, c'est la revendication du Dieu du salut. C'est le Dieu qui est tellement éloigné de la naissance. C'est le grand écart, vraiment le grand écart. Ce qui est proche, là, c'est l'angoisse. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne pour aider. C'est vraiment le sentiment d'abandon. La solitude exacerbée. Il faudrait quasiment être lyrique, hein, pour aller au bout de cette expérience-là. Il faudrait y aller en jeu et essayer d'exprimer une expérience personnelle sur le sentiment d'abandon. Et alors, les versets suivants, versets 13 à 22, c'est la radicalisation de l'expérience paroxystique. Après avoir été abandonné par Dieu et par les hommes, comment exprimer le pire? Eh bien, c'est le psalmiste qui se retrouve entouré par des animaux. La bestialité, l'inhumanité, la sauvagerie. Et du coup, ça signifie que l'heure de la parole est passée.
Qu'est-ce qu'on entend par Bacham?
Alors, c'est une montagne. Les taureaux de Bachan, ce sont des taureaux qui sont sur une montagne qui s'appelle Bachan. Et Jean Calvin, dans son commentaire, explique la mention de Bachan en disant que c'était des terres particulièrement grasses, et donc c'était des taureaux particulièrement puissants parce que bien nourris, bien engraissés. Donc c'est pour désigner la puissance de la bête qui est en face de nous. Ouais, c'est le taureau dans toute sa puissance. Taureau puissant, combatif. Calvin, à mon avis, a raison de dire que c'est une façon de montrer toute la différence entre le ver malingre et le taureau digne du concours du Salon de l'agriculture.
Ce qui est étonnant quand même, c'est le terme de taureau qui mord. Est-ce que c'est pas de transformer un herbivore en carnassier, mais pas quand même du plus courant, quoi, dans la représentation? Alors peut-être qu'en Mésopotamie, il y a souvent des taureaux très forts représentés, s'il y en a en Assyrie ou à Babylone, on voit souvent des taureaux énormes, hein, très, très forts, mais
là, ouais.
Je ne sais pas si c'est en réminiscence comme image.
Mais vous le voyez où, ce taureau qui mord?
Il est dit comme un lion. Hein.
Ah oui, comme un lion, c'est autre chose.
Oui, mais il dit...
Ouais. Les taureaux en cercle.
Semblable au lion qui déchire ses déchirés rugis.
Mais précisément.
Il ouvre contre moi la gueule.
c'est qu'on est dans l'ordre de la métaphore. D'accord. Donc on ne dit pas que les taureaux deviennent carnassiers, mais on dit qu'ils ont un pouvoir de nuisance semblable au lion qui déchiquette. Et d'ailleurs, ce verset, il va falloir qu'on s'arrête parce que ça pose problème. Mais alors, sérieusement en plus. Hein. Ben oui, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la subtilité du texte quand on évoque les chiens. Parce qu'il y a, il y a les chiens qui... Oui, des chiens qui me cernent. Et en fait, ce sont des animaux qui utilisent les chiens contre l'homme. Alors d'habitude, c'est l'inverse. C'est les hommes qui utilisent les chiens contre les animaux. Vous voyez ce renversement ? Il y a une sorte de décréation. C'est-à-dire que c'est la folie, en fait. Il n'y a pas pire. On est dans un monde à l'envers.
Une bande de vauriens.
Oui, bande de vauriens. Et alors, on a, vous voyez, une équivalence entre le verset 17 et le verset 21. C'est-à-dire entre les chiens et les vauriens, entre les griffes et les épées. Et il y a un jeu comme ça, chien, vaurien, griffe, épée, c'est un jeu de métaphore. Et les chiens sont en réalité des agents humains. C'est-à-dire que ce sont des hommes, certainement, qui se comportent comme des chiens. Et qui sont manipulés par des hommes qui, en fait, sont comme des bêtes. Vous pouvez... il y a plein de films comme ça où l'innocent se retrouve dans la peau d'une victime qu'on accuse d'avoir commis quelque chose. Le monde à l'envers. On nous accuse alors qu'on est la victime. Enfin, il y a des situations comme ça. Et ça, c'est la folie qui nous guette, quoi. Je pense que... Kafka aussi, c'est pas mal dans le genre. Bien. Le verset 17 est un super problème. Parce que... Alors ça fait un peu penser à la crucifixion. Sauf que dans le texte hébreu, ça y est pas. Dans le texte hébreu, c'est comme un lion qui... comme un lion qui s'occupe de mes mains et de mes pieds. Vous voyez, par exemple, si on prend la version française, la Bible de Jérusalem. Donc, verset 17, « Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure. » En fait, le texte hébreu dit « comme un lion ». Oui, alors « pour déchiqueter mes mains et mes pieds », dit la traduction Bible de Jérusalem. Mais en fait, en hébreu, c'est « comme un lion ». Mes mains, mes pieds. Et alors, l'idée, c'est que... Alors, on a un verbe... on n'a pas de verbe, hein, on a bien un mot. Hop. Donc, on a ici « que », c'est le comparatif, « comme ». Et puis ici, on a le lion, « ari ».« Ari », un animal qui ne vous vaut pas du bien. Donc, comme un lion. Voilà, l'hébreu, dans le texte massorétique, dit ça. Mais, le problème, c'est que, comme on a entendu que le psaume 22 avait de fortes résonances avec la passion de Jésus, ou plus exactement que la passion de Jésus a de fortes résonances avec le psaume 22, on aimerait bien que c'est un rapport avec le fait que Jésus s'est fait crucifier, donc il a eu les mains et les pieds percés. Quoique ce n'est pas les mains, c'est les avant-bras qui ont été percés. Parce que si on perce les mains, vous savez que ça se déchire et ça ne tient pas sur la croix. Et du coup, on a imaginé que ce pourrait être un verbe « kara » qui soit mal écrit. Mais en fait, rien ne le justifie vraiment.
Mais qui a imaginé ? C'est qui ?
Ah ben, eh bien, les traducteurs.
Ah ben voilà, mais alors pourquoi ils se sont permis d'imaginer des choses ?
Eh bien, parce que les traducteurs ont envie que les textes aient du sens. Et donc, pour que les textes aient du sens, ils essaient de faire coller au sens qui leur semble soit plausible, soit qui correspond le plus à leur idée.
Oui, mais ils peuvent se tromper.
Ah ben, c'est le cas.
Ils n'ont pas besoin de nous imposer leurs
images. Voyez que, entre les trois traductions, là, ça varie, justement. Hein, puisque la traduction œcuménique à « ils m'ont percé les mains et les pieds », La Bible de Jérusalem ne traduit pas comme un lion, mais déjà c'est déchiqueté, ce qui ne peut plus avoir de rapport avec la crucifixion de Jésus. Et on a effectivement percé avec Darby. Et je pense que Segond a cette percée aussi. Et voilà, et lié main et pied, ce qui n'a aucun rapport avec le texte hébreu d'ailleurs, ni avec le texte. Voilà.
C'est pas une bonne traduction en fait.
Donc là, on se trouve, vous voyez, en flagrant délit d'idéologisation. Et de surinterprétation, ou de projection. On fait dire au texte ce qu'on aimerait qu'il dise.
Oui, c'est des interprétations personnelles.
Oui. Oui, Stéphane. Oui.
Ça pourrait être un sens possible.
C'est-à-dire que le lion est capable de déchiqueter. C'est-à-dire que c'est la conséquence du lion. Mais plutôt que de traduire le texte hébreu en gardant cette image du lion, puis après à vous d'imaginer ce que le lion peut faire aux pieds et aux mains, là, ils interprètent en fait. C'est une traduction qui interprète en deuxième niveau. Elle est quand même proche de l'idée du texte, mais elle remplace le lecteur. Le lecteur devrait imaginer ce que le lion va faire, et là, elle le dit, en fait, en passant sous silence le lion.
Quand on voit ce qu'il y a au verset 19, ça veut bien quand même rapprocher.
Oui, bien sûr.
Il y a des types de rapprochement avec...
Mais oui, mais il y a des... On voit que... La Passion a certainement été écrite en tenant compte de ce psaume 22. Et d'ailleurs, on peut se dire que ce qui s'est vraiment passé avec Jésus de Nazareth est éloigné de ce que les évangiles nous en disent, puisque les évangiles, manifestement, s'évertuent à rendre conforme la crucifixion de Jésus et la Passion à ce psaume-là. On pourrait dire aussi que ce psaume nous dévoile une expérience universelle, et la Passion de Jésus également. Donc ce sont des figures types pour exprimer ce que nous pouvons ressentir. Et ce que nous pouvons ressentir... Vous voyez, quand on dit par exemple que l'équipe de Troyes s'est faite crucifier par le Paris Saint-Germain. Et là, on peut en parler, hein. Eh bien, en fait, aucun joueur de Troyes ne s'est retrouvé avec des stigmates. Mais ils se sont quand même méchamment fait crucifier. Bon, donc, utiliser l'image ou l'archétype de la crucifixion peut être à la fois tout à fait vrai, sans avoir de caractère allétique. Allétique au sens du mot grec « alléteia », la vérité, c'est-à-dire que ça peut être vrai, parce que ça renvoie à quelque chose de conforme à l'esprit, mais il faut se distancier de la lettre. Ce n'est pas ce qu'une caméra aurait pu filmer ce jour-là. Bon. Après, pour ce qui est de la crucifixion de Jésus, je vous renvoie à votre libre interprétation des textes. Mais pour ce qui est de notre gars ici, il ne s'est probablement pas fait percer les mains et les pieds. En revanche, il a ressenti ce que disait Stéphane, à savoir le fait d'être complètement immobilisé, quoi, et d'être complètement handicapé, en fait. On est comme infichu de pouvoir faire quoi que ce soit. Comme on n'est plus capable de réaliser quoi que ce soit, eh bien, on perd notre humanité, en fait. C'est le sentiment de perdre son humanité. Je vous rappelle juste ce que Paul Ricoeur disait de ce qu'est un homme libre. Un homme libre, c'est quelqu'un à qui on peut imputer des actes. Mais quand on n'est plus capable de faire le moindre acte, on n'est plus un homme libre. Dans un premier temps. Puis après, on retrouve une autre forme de liberté. Mais non. Là, il se retrouve complètement ligoté. Quoique n'étant pas lié. Donc, vous voyez, ça rejoint la Français courant, qui est une interprétation a posteriori. Bien. Donc, On a toutes les émotions du psalmiste, qui sont des émotions par contraste. Ce qui est sec se liquéfie, la langue humide devient sèche. Donc vous voyez, on continue à être à l'envers. C'est vraiment le bazar, quoi. Enfin, on n'espère plus qu'une seule chose, c'est que ça finisse de façon la plus radicale qui soit. On ne peut pas supporter ça. C'est l'anti-monde, l'anti-vie. C'est une décréation. Avec les images contraires de l'eau et de la poussière, verset 15 et verset 16. Donc, le mot « mort », finalement, pourrait quasiment intervenir, là. Parce que c'est exactement ce que vit le psalmiste. Et quand il dit au verset 19 « Ne te tiens pas loin, Éternel, ma force, hâte-toi de me secourir », c'est qu'on est vraiment à la limite. Enfin, quand je dis verset 19, c'est verset 20 dans les autres traductions. Donc, entre-temps, il se partage mes vêtements et tire au sort mes habits. C'est ce qui va arriver à Jésus, effectivement. On pourrait même dire je peux compter tous mes os, parce que quand on voit les représentations de Jésus sur une croix, les côtes sont bien apparentes. On pourrait vérifier que Ève n'en a pas piqué une, pour prendre l'expression populaire. Bien. Arrache-moi la gueule du lion aux cornes du buffle, ou sauve-moi de la gueule du lion de la corne du taureau. Donc, vous voyez, là, le taureau, il n'est pas réputé pour mâchouiller, il est bien réputé pour embrocher. Hein. On est bien à la corrida comme il faut. Et donc, on a le verset 22b, « Tu m'as répondu ». Voilà. Et alors ça, voilà qui change tout. C'est à partir de là que le psaume bascule sur un autre psaume. Et vous voyez, c'est un passage abrupt de la tristesse à la joie qui va s'engager là.
C'est dans le 22 ?
C'est 22b. Vous l'avez dans le 23 ? Ou dans le 21, je veux dire ? Vous avez, tu m'as répondu, d'entre les cornes de buffle, c'est ça?
Oui.
Ah non, pas dans Jérusalem, mais il n'a pas une traduction de Jérusalem, je pense. Dans la seconde, c'est verset 21, je pense. Bon, toujours est-il que dans le texte hébreu, le dernier mot du verset 22, que j'ai mis tout seul d'ailleurs en face de tu m'as répondu, hein, c'est le verbe anan. Et donc, tu as répondu à moi. Donc ça, on l'a. Alors, dans second, c'est 22. OK. Vous l'avez trouvé ?
Oui, c'est second, mais quand je l'ai recopié de l'internet, j'ai dû pousser la phrase.
Bon, dommage. Bon, donc, tu m'as répondu, et à partir de là, hop, tout s'éclaire. Eh bien, vous voyez, c'est l'aurore. L'aurore, elle est là. On a eu le summum des ténèbres, on a eu le fin fond de la nuit, et là, on est au matin de Pâques. Et vous voyez, on a autant de détails qu'à Pâques, c'est-à-dire aucun. C'est-à-dire que là, libre interprétation, à savoir comment ça s'est passé, le détail, etc. Donc, on n'a aucun détail, aucune description. Peut-être une façon de dire que c'est un moment ahistorique. Qu'est-ce qu'un moment ahistorique dans mon esprit ? C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se répéter. C'est-à-dire que c'est une expérience unique. Je veux dire par là que la résurrection, elle, c'est une affaire individualisée. Ce qui va ressusciter l'un sera différent de ce qui ressuscitera l'autre. Et les modalités de résurrection n'appartiennent qu'à nous. Il y a des éléments communs, universels,
des archétypes.
Mais pratiquement, c'est à chaque fois une chose différente qui va ressusciter quelqu'un. Et d'ailleurs, on le voit dans les évangiles, il y a beaucoup de résurrections, hein, des gens qui sont relevés ou éveillés. Eh bien, Jésus s'y prend différemment, selon les uns, selon les autres. Et Et c'est en ce sens que c'est un moment historique. C'est un moment qui ne peut pas se répéter, ce n'est pas une expérience scientifique. En mettant les bons ingrédients, on obtient le bon gâteau. En mettant les bonnes conditions, on obtient le même résultat scientifique. Tout bascule en un mot. Tu m'as répondu, qui donc répond au verset... Tu ne me réponds pas du verset 3. Et ce qui est frappant, c'est qu'on va avoir un vrai jeu de contraste. Autant la première partie qui était la mort, c'était l'abandon, autant la deuxième partie qui est la vie va être la communion. Voilà. Et c'est vraiment un jeu de contraste énorme. Et tout va être remis à l'endroit du coup. Et le sauvé, là, le croyant, du coup, va se tourner vers autrui, alors qu'il n'y avait plus personne autour de lui. Quand on avait le moment régressif, on avait le nouveau-né qui se tournait contre sa mère, et bien là, il va trouver ses frères. On a dans la première partie un être solitaire et on a dans la deuxième partie la communauté, qui est une communauté célébrante avec les hymnes, etc. Une communauté qui est convoquée pour louer. Et c'est celui qui était rejeté, c'est celui qui n'était pas reconnu, qui va convoquer la communauté, qui va devenir en quelque sorte Coëlette, l'ecclésiaste. Vous voyez, ça c'est tout le paradoxe. C'est ça, mort et résurrection. C'est le psaume 118, verset 22, qui est aussi reprise pour Jésus. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Hein, c'est le psaume 118, verset 22. Il y a un retournement, une teshuva. Il y a ce que vous voulez, mais il y a de la résilience, quoi. On pourrait prendre la suite. Elle est pas inintéressante, mais bon, finalement, elle est facile parce que c'est la joie, c'est la célébration. Il y a le banquet, les sacrifices d'action de grâce, il y a la connotation de bonne santé. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer. De voir le verset 31, parce que c'est au verset 31 qu'il y a le vrai problème de traduction en hébreu. Enfin, 30 et 31. 30. Si je lis les traductions, tous les heureux de la terre ont mangé, les voici prosternés, devant sa face se courbent tous les moribonds, il ne les a pas laissés vivre. C'est bizarre ça. Une descendance servira le Seigneur. Je prends la Bible de Jérusalem. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. Alors là, il y a une astuce faite par le traducteur pour rendre le texte compréhensible. C'est-à-dire, pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. Mais s'aligner, c'est pas dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il y a juste descendance. Et donc, le « ça » n'existe pas dans le texte. Donc, c'est de la bidouille. Chez Darby, « Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent dans la poussière. Et celui qui ne peut faire vivre son âme. » Ce qui est là aussi assez paradoxal. Celui qui ne peut faire vivre son âme se courbera. Enfin bon. Une semence le servira. Bien. Alors, quand on regarde les différentes versions, donc pas les traductions, mais les versions, c'est-à-dire qu'on compare le texte hébreu au texte grec, on se rend compte qu'il y a une différence dans le texte grec qui laisse entendre qu'il y aurait une petite erreur dans le texte hébreu, une erreur de copie. L'erreur de copie, elle est à la fin du verset 30, probablement.
Alors, je vais essayer de vous le rendre, même si vous n'êtes pas familier de l'hébreu, mais vous allez retrouver sur la feuille, disons, les mots qui sont en jeu. Donc, on est au verset 30, et les trois derniers mots du verset 30, c'est « we nafsho », donc « nefesh », peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu. « Nefesh », c'est l'âme, « we nafsho », donc son âme. « Lo », écrit comme ça, « lamed aleph », c'est la négation, « ne pas ». Donc, on en trouve pas mal dans le décalogue, tu ne feras pas. Et puis après, il y a le petit mot raya. Et raya, vous avez déjà entendu, ça veut dire la vie. Donc, et son âme ne vivra pas. Et donc, il ne vivra pas. Mais la correction que propose la Septante, c'est qu'ici, en fait, c'est pas l'eau comme ça, c'est l'eau, la med, wav. Ça veut dire pour lui. Et en grec, on a donc un autos ici. Et du coup, ça voudrait dire je vivrai pour lui. Et du coup, c'est une façon de dire que l'âme va se consacrer à Dieu.
C'est à la place d'une descendance, ça revient à la place.
Non, c'est juste avant la descendance. Et du coup, on a. Moi, je vis pour lui. Et ensuite, la descendance, elle est fidèle au fait que je me consacre à lui. Donc, en fait, ça ne change pas le sens du verset 31. C'est que, au lieu d'avoir quelque chose qui parle de la non-vie, on dit plutôt qu'il y a une vie consacrée à. Ce qui change quand même vraiment la donne. Parce qu'évidemment, on aimerait qu'il y ait une sorte de mention du Sheol, avec les morts qui célèbrent Dieu quand même. Alors que dans les psaumes, justement, on dit que ce qui se passe au Sheol, c'est la rupture d'avec Dieu. Et que, alors bien sûr, ça pourrait être magnifique de se dire que même au Sheol, il y a un culte divin, etc. Mais tous les psalmistes disent « si je me retrouve au Sheol, c'est-à-dire que si je meurs, je ne pourrai plus te louer. Hein, » donc, parce que c'est une prise au sérieux de la mort dans la pensée hébraïque. Donc, on a... vous me direz, c'est juste un petit détail, mais c'est un petit détail qui, du coup, permet d'appuyer le texte dans la dynamique qu'il a ouverte.
C'est un peu comme un sommeil.
Ce qui est comme un sommeil, c'est tout ce qui précède. Il y a une sorte d'assoupissement progressif du fait de cette dépression. La mort physique est effectivement comprise comme un sommeil, mais un sommeil dont on ne se réveille pas, en fait. Alors, après, on peut se demander qui est ce psalmiste ? Qui est cette personne qui a écrit ? Alors, plusieurs hypothèses. Donc, on peut se dire un roi. Alors déjà, on peut se dire David, parce que voilà. Bon, ça peut être écrit à l'époque de David, mais vu la langue, ça serait étonnant. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a eu un impact sur la nation, puisqu'il est capable de rassembler la communauté. Donc c'est quand même un leader. Donc un roi est assez vraisemblable. Et puis, les rois sont quand même assez malmenés. David, dans une certaine mesure, ça pourrait marcher parce qu'il a été un petit peu rejeté par Saül, notamment, avant de l'emporter. Mais on a beaucoup de rois qui... En fait, la plupart des rois sont connus parce qu'ils ont été défaits. Hein, s'ils apparaissent dans les annales des autres royaumes, c'est parce qu'ils ont été vaincus. Bon, et on a quand même pas mal de rois dans l'histoire d'Israël qui sont en situation extrêmement délicate. Ézéchias, il est menacé lors du siège par Sennachérib. Josias. Bon, Josias, il meurt à la guerre. Sédécias. À la fin du siège de Jérusalem, il est pourchassé. Il est rejoint par les troupes de Nabucodonosor. Il est condamné. Il est condamné à quoi ? Il est condamné à voir ses fils qui sont égorgés.
Il est rendu aveugle, il est emprisonné. Bon, mais on ne l'a jamais entendu prononcer la moindre libération, il n'a pas partagé son pain, etc. Bon, on pourrait en trouver comme ça. Le Midrash fait un lien avec... Avec qui ? À votre avis ? Allez, je vous laisse mariner 30 secondes. Quelle pourrait être la figure royale derrière ce psaume ? Alors, c'est pas David. Salomon. C'est pas Salomon. Saül. C'est pas Saül. Pardon ? Salomon. Pas Salomon, non. Bien. Eh bien, écoutez, je ne suis pas tout à fait mécontent de cette petite expérience qui montre qu'en dépit d'une assemblée généreusement composée de représentants de la gente féminine, c'est quand même assez phallocrate. Parce que c'est Esther. C'est une reine. Ah, j'ai dit une figure royale. Oui. Bien. Donc, c'est pervers. N'essayez pas de vous excuser de ne pas avoir pensé à Esther. Donc, personnage royal qu'on trouve dans le livre éponyme, figure épouse d'Assuérus, à Artaxerxès. Et c'est d'elle dont dépend le sort du peuple, qui est menacé à cause d'Aman, qui voit très mal, qui voit d'un très mauvais œil que Mardoché ne se prosterne pas devant le roi, etc. Et qui, du coup, va s'arranger pour exterminer Israël, c'est-à-dire le peuple de Mardoché. Mardoché, qui est un descendant de Saül, d'ailleurs. C'est un vieux conflit qui est en train de se régler là. Et donc, c'est Esther qui, finalement, va prendre sur elle d'aller voir le roi, sachant que aller voir le roi pour demander le salut de son peuple, c'est risquer la mort. Parce que même la reine ne pouvait s'adresser au roi qu'à la condition que le roi ait l'initiative. À moins que, prenant l'initiative d'aller voir le roi tende son sceptre, qu'on le touche, dans ce cas-là, on avait une sorte de sauve-conduit. Et c'est ce qui se passe avec Esther. Donc Esther ne sera pas décapitée. Et elle va pouvoir trouver avec la cour une solution pour éviter le génocide. Et ça donnera lieu à la fête de Pourim. Le carnaval, tout ça. Le festin, la liesse, on trouve tout ça en Esther, chapitre 9, verset 22. Il se pourrait bien que ce soit cette figure, enfin en tout cas le Midrash laisse entendre que ce soit cette figure. Et je trouve que c'est assez intéressant comme hypothèse pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a mort et résurrection, au sens où le peuple est comme mort, le décret est signé, hein. Et quand le roi a signé un décret, il est irrévocable. Et c'est tout le problème de la stratégie qu'il va falloir mettre en place pour sauver, malgré tout, Israël. Donc, le peuple est condamné à mort. Donc, le peuple se sent mourir, donc prendre le deuil. Et en fait, le peuple va être sauvé. L'aurore va quand même encore se lever. Et on est en pleine situation de déréliction au sens pas de Dieu. Mais radicalement. C'est le seul livre biblique où il n'est pas fait mention de Dieu. Jamais. Dans la version hébraïque. En grec, la traduction grecque a mis des compléments où il y a du Dieu qui apparaît. Mais dans la version hébraïque, il n'y a pas la moindre mention de Dieu. Ce qui, dans une certaine mesure, en fait un livre athée. Il y a une allusion à un moment donné, il y a Mardoché, donc l'oncle d'Esther, qui lui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu as été mis sur le trône ?» On peut se dire peut-être quel est l'objet de la providence divine, etc. Mais factuellement, c'est un livre sans Dieu. Et donc, ceux qui espèrent le salut n'ont aucune réponse de Dieu. Il n'y a pas de communication avec le divin. Pas de communication avec le divin explicite. Mais ça ne veut pas dire que l'athéisme soit l'absence de transcendance et d'altérité. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il peut ne pas y avoir un dieu au sens où on l'imagine, c'est-à-dire un personnage surnaturel, doté de capacités hors du commun, mais un dieu au sens biblique du terme, c'est-à-dire la possibilité d'expérimenter des moments où ce qui semblait fichu est pourtant relancé. C'est-à-dire ce qui semble mort s'avère être un foyer de vie. Il se pourrait que Esther soit la biche de l'aurore. Et pour vous montrer cela, j'aimerais vous lire quelques extraits d'un livre de Philippe Labro. C'est son livre sur sa dépression nerveuse. Tomber 7 fois, se relever 8. Pour vous faire entendre à quel point ce psaume peut être bien sûr lu de manière historique et critique, ce que j'ai essayé un peu de vous faire, notamment sur la fin, en essayant de demander à la fois quel pouvait être le psalmiste ou qui se cache derrière, et puis essayer de retrouver un peu des éléments de contexte, mais aussi être lu de manière plus personnelle, plus existentielle. Donc voilà comment commence le livre de Philippe Labro, puis je vais vous lire quelques extraits au fur et à mesure de son livre, sans forcément vous donner les numéros de page, mais vous pourriez les retrouver. Voilà, il commence comme ça. « Quelque chose a changé. Lorsque je me réveille, je suis en nage. Hein, » La question de l'eau, etc. « Cette expression ne veut rien dire. C'est une image facile, elle ne raconte rien. Il faut corriger. Je ne suis pas en nage, je suis inondé. Je baigne dans ma sueur. » J'ai ressenti ça plusieurs fois dans la nuit, car je me suis réveillé plusieurs fois et j'ai constaté que ça n'allait pas bien du tout. Mais je n'ai pas voulu m'extraire du lit, je n'en avais pas la force, et puis, bon gré mal gré, je suis parvenu à m'endormir. Sauf que, après le premier réveil, entre 3 et 4 heures du matin en général, je n'ai jamais véritablement dormi. Perdu désir, je ne désire plus rien. Je n'ai plus goût à rien, manger est une épreuve, boire une punition, la mandarine n'a plus de goût, la purée ne passe pas à travers la gorge, le café laisse des traces d'amertume, la viande dans l'assiette a l'air inabordable, je ne la mangerai pas. Le sucre est cœur, le chocolat donne la nausée, le sel n'est pas salé, on dirait que les éléments essentiels de l'alimentation se dérobent à toute envie, tout besoin. Le mieux dès lors est peut-être de ne plus rien manger. Boire de l'eau ça va encore, mais à petite gorgée, sinon ça essouffle, ça perturbe. Le visage se creuse cependant. Le type commence à flotter dans ses vêtements, il vous regarde de ses yeux ternes, il n'est plus capable de sourire, il y a de plus en plus au coin de ses lèvres, aux commissures, deux traits divergents, deux petites barres de tristesse qui descendent vers le menton. Elle, parle de la compagne, ne le reconnaît plus. Elle croit voir le visage d'un autre homme. Cet être, courbé et amaigri, il perd quelques kilos chaque semaine, cet interlocuteur qui n'interlocute plus, ce quasi-muet, voix basse et lente, cette absence de toute affection, cette perte de désir, cette incapacité d'un seul geste de tendresse, d'un seul regard chaleureux ou complice. Définis ta douleur. Ça se passe où ? Dans le ventre ? Oui, c'est ça. C'est le ventre. Le ventre, on en a parlé aussi. Dans le creux du corps, au milieu de moi, comme une vrille. Ça tourne et tournoie, ça n'arrête pas de tournebouler comme ces centrifugeuses dans les machines, comme une bétonnière qui broie le sable et la chaux et l'eau pour en faire un ciment. Chacun, pour raconter ce mal, ira curieusement chercher des comparaisons chez les animaux. On les avait aussi. On parle des amis. D'ailleurs, ils se font une raison. Ils n'attendent plus mes appels. Ils ont suffisamment entendu la rumeur. Il est foutu. La fin du récit. Lorsqu'on me demande « Comment avez-vous réussi à en sortir ?» La modestie et l'humilité, autant que l'honnêteté, qui doivent habiter chaque rescapé d'une dépression nerveuse, chaque survivant de la brisure vers le bas, m'amène à répondre « Il vaudrait mieux formuler la question autrement. » Je n'ai pas réussi à en sortir. Ce n'est pas une réussite, c'est la fin d'un échec. Mais comme ça n'est pas une vraie réponse, alors pour sacrifier à mon goût de la formule, je résumerai cela à deux A. A comme amour, A comme amitié. J'ai été aimé, j'ai été aidé. Ça fait beaucoup de A dans votre réponse. On pourrait en livrer plus encore. A comme affection, assistance, acharnement, accompagnement. A, c'est la première lettre de l'alphabet, la plus ouverte des voyelles, l'élément du latin ad, marquant le but à atteindre. À elle seule, la lettre fait plus de 1000 pages dans le dictionnaire, et sans doute plus de 4000 mots de notre belle langue. Mais amour suffira, puisqu'il détermine les deux autres sentiments, l'amitié et l'aide. Il finit comme ça. J'ai repris le travail, j'ai repris mon outil. Lorsque les premiers effets de l'anafranil s'étaient manifestés, les deux personnes qui se préoccupaient de ma santé s'en parlaient chaque jour, sans que je le sache, ma femme et mon ami Alain, décidèrent qu'il fallait bondir sur l'occasion. « Il lui faut faire quelque chose, dit-elle. Il faut qu'il écrive, qu'il publie, qu'il travaille et qu'il signe. » Donc la reprise du « je ». Pouvoir signer, c'est pouvoir dire « je ». Et je crois que c'est comme ça que s'achève ce psaume, en fait. C'est la possibilité d'être à nouveau sujet. Et comment cela se fait-il ? Cela se fait parce qu'il y a eu une aide extérieure. Et cette aide extérieure, on peut l'attribuer à Dieu, mais Dieu peut aussi désigner tous ces moments d'amour, d'amitié, d'aide, qui font que l'expérience des 22 premiers versets se métamorphose en l'expérience des derniers versets de ce psaume. Je vous remercie.